Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Calixte, dans la splendide Béatrix, aime un artiste, Camille Maupin, comble de la dépravation. Tandis que Véronique Gralin, née dans une famille modeste, épouse un riche banquier de Limoges. La liste est longue de ses amours contrariées et contrariantes, dans laquelle il ne faut pas oublier la femme mûre qui aime un très jeune homme, la vieille fille qui n'épouse personne, le curé dans sa campagne et le notaire aux premières loges de tous ses désordres et transactions pour les remettre en place. On se doute moins qu'aujourd'hui encore, le couple, si ce n'est le mariage, reste pour les familles une association d'intérêts, une institution conservatrice destinée à préserver un certain ordre, à le reproduire et à sauver les meubles s'il y en a. Certes, les types ont bougé, les drapiers sont devenus des vendeurs, les ouvriers des immigrés, les aristocrates des banquiers. Mais la persistance de ce que certains jugent comme des mésalliances, des mariages mal vus, des couples prétendument mal assortis, des unions mixtes ou pas catholiques, en dit long. Aujourd'hui donc, tout de suite dans Les Pieds sur Terre avec Nathalie et Dédé, David et Jean-Baptiste, on mélange la ville et la campagne, les homos et les hétéros, et il y a toujours, hélas, des histoires à raconter dans la même comédie humaine, par Alice Milo.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
Si on se faisait le reste de chou farci.
Ben oui,
tout à fait.
Eh ben ça ira très bien. Puis le lapin, je le garde pour demain à ce moment-là.
Voilà.
Tu penses que ça suffit? Je vais le faire là-dedans.
Puis moi, je vais aller voir mon chien s'il va mieux. Et puis,
allez,
je retourne.
Tu vas voir ton chien. Ma mère est née pas loin d'ici, ma grand-mère y habitait. Mes années de petite enfance, j'ai passé énormément de temps ici et j'en ai gardé un souvenir un peu ébloui, un peu merveilleux. Et puis après, la vie a suivi son cours. J'ai fait mes études à Paris, je vivais à Paris comme médecin dans un hôpital. Je m'occupais d'enfants, voilà, jusqu'au moment où... J'ai un peu changé de vie. J'ai loué une petite maison qui est la dernière maison au bout de la route. Après, il n'y a plus que des chemins dans les bois, pas très loin de l'endroit où j'avais passé une partie de mon enfance. Donc Dédé était mon voisin d'en face, quasiment. Il vivait avec sa sœur. Puis j'ai commencé à aller chez eux, à aller les voir, comme ça. Pendant 3 ans, il venait voir mes légumes, il me donnait des conseils. Il m'apportait des hérissons, il se plaignait qu'il avait des hérissons, qu'il bouffait les œufs de ses poules. Et moi, j'adorais les hérissons, alors on avait des prétextes de hérissons pour se voir. J'ai acheté cette maison. Et je me suis mis un truc sur le dos qui quand même était un peu au-delà de, de mes capacités. Notamment, il y a 1,5 hectare de parc autour qui n'avait pas été entretenu depuis des années. Et puis, j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de quelqu'un. Tout autour, là, dans cette nature, on a abattu des arbres, on a taillé, on a défriché, on a nettoyé. Et c'est là, en fait, que j'ai appris à le connaître.
Bon, ben, je m'appelle Dédé, j'ai 70 ans. Je suis né dans le village et bon, j'étais exploitant agricole laitier. Donner à manger, la traite, l'eau dans les champs, aller les emmener. Non, il n'y avait que ça à faire, hein, sans arrêt. Hein. Puis bon, ben, d'une année sur l'autre, ça passe, et puis on n'y pense pas. Et puis la vie privée, bon, on laisse ça de côté, avec le boulot qui compte. Donc, c'est tout. Moi, j'ai eu un grand amour jeune et puis qui s'est très très mal terminé parce qu'elle voulait pas se marier avec un agriculteur. Voilà. Et j'ai eu un gros, gros chagrin. Donc, j'ai dit, c'est terminé. J'aurais plus de relation du tout. J'étais tellement déçu. Et donc, j'ai pas cherché pendant 45 ans. Voilà.
Vous êtes resté célibataire tout ce temps?
Ouais. Tout à fait. Moi, j'ai pas été galopé nulle part. Moi, j'étais resté, c'est mon échec. Et puis, l'apparition de la Parisienne dans le village qui m'a tourné la tête. Je l'ai vue pour la première fois, c'était la foire aux chèvres. Donc, elle est en vélo. Je l'ai bien regardé, et puis j'ai dit, plairait bien, mais enfin, c'est pas quelqu'un pour moi, vu que. Après, on m'a dit que c'était un médecin, alors j'ai dit, un plouc qui est un médecin, c'est impossible, ça veut pas marcher. Voilà.
Donc, c'est vous, Nathalie, qui avez fait le premier pas?
Oui, il venait tous les jours avec sa tronçonneuse, on se voyait tous les jours, et puis un jour, au bout d'un mois et demi à peu près, en fait, on a fini. On est arrivé au bout de ce qu'il y avait à faire dans le parc, et puis du coup, le lendemain, il n'est pas venu. Et alors, je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup. Mais au bout de 3-4 jours, je me suis demandé si j'étais pas en train de tomber amoureuse, et ça me paraissait insensé. Par rapport à notre différence sociale, effectivement, on n'a absolument rien de commun, hein, en apparence. Avant de lui dire quoi que ce soit, j'ai demandé à ma fille. Hein, je l'ai eu au téléphone et je lui ai dit, tu sais, je crois que j'ai des sentiments pour Dédé. Est-ce que ça te paraît pas complètement bizarre ? Alors elle m'a répondu, pas plus bizarre que le reste de ton existence. Alors ça m'a libérée. Donc le lendemain, je lui ai parlé. Je lui ai dit, il était revenu parce qu'on avait convenu d'un apéritif avec des amis et des voisins. Et à la fin de l'apéritif, je l'ai pris à part. Et puis je lui ai dit, tu veux pas venir demain ? Alors il me dit, pourquoi faire ? Je lui dis, je sais pas, pour se voir, enfin. Il me dit, mais avec quels outils ? Et puis je lui dis, toi. Pas d'outils, toi, quoi. Enfin, comme si c'était un outil. Et alors là, il m'a dit, mais t'es amoureuse ou quoi ? Parce qu'il est direct aussi, comme ça. Alors j'ai haussé les épaules, et puis je lui ai dit, à ton avis, puis je suis partie en courant.
Et après ?
J'avais la bouche cousue, hein. Aucun mot du tout, je mangeais des cacahuètes et c'est tout. Et puis je n'ai pas dormi de la nuit, évidemment. Je suis venu le lendemain, je ne sais plus à quelle heure, midi ou quelque chose comme ça. On est tombé dans les bras l'un de l'autre, on m'est tombé dans les bras.
Mais on en tremblait, quoi. On était bouleversés par ce qui nous arrivait. Moi, ça faisait 30 ans que j'étais toute seule. Lui, ça faisait 45 ans qu'il était resté sur cet échec avec... l'idée que c'était impossible qu'ils revivent la même chose. Le premier jour où on s'est parlé, il m'a dit, je veux bien qu'on se mette ensemble, mais si tu t'en vas, je te fous un coup de fusil. Donc là, je me suis dit, aïe. mais c'était pour dire à la fois l'intensité, à la fois la force. Il n'y avait pas droit à l'erreur. Mais du coup, on était tous les deux, c'est vrai, au début, totalement bouleversés par ce qui nous arrivait. À tel point d'ailleurs qu'on a voulu le garder pour nous. Au début, on s'est caché et on se retrouvait dans les bois. Alors moi j'ai bientôt 60 ans, il en avait 70, et on s'est retrouvé comme des gamins de 15 ans, tremblants, se cachant dans les bois pour se voir. Et on avait tellement peur déjà nous que affronter après les ragots, les commérages, les réactions du village. Oui, on s'est gardé 2 mois pour nous. Déjà, pour affronter notre peur à nous. Mais c'était merveilleux et terrible en même temps.
Oui.
Enfin, oui, il y a 2 fois 1 kilo. Il y a 2 fois 1 kilo.
1 kilo, quand même.
Dans la casserole que tu as fait gramer, l'autre fois.
Oui, je suis pas tellement cuisinier, moi.
Dédé, elle est incapable de se faire à manger.
Elle a un œuf dur.
Donc, moi, je lui ai dit, faut que tu apprennes à faire la popote, hein. Faut que tu apprennes à te débrouiller. De toute façon, moi, quand je travaille, quand je vais à l'hôpital, déjà, j'ai une heure de route. Je travaille toute la journée, je rentre crevée. Le midi, je ne suis pas là. Il faut que tu saches te faire à manger. Donc, je lui apprends à se faire à manger. Et alors, ça lui plaît beaucoup. Et puis, au bout de 2 mois, on a décidé qu'on se sentait peut-être suffisamment assuré entre nous déjà. Et donc, on a décidé de le dire. Et là, on n'était pas au bout de nos peines, je dois dire. Là, les ennuis ont commencé parce que sa famille, à lui, l'a très, très mal pris. Et lui, il vit seul avec sa sœur. Et son cousin, par qui je l'ai connu, mon propriétaire, vit seul avec son frère. Et donc, moi, je suis allée voir les deux cousins. J'ai débarqué chez eux, comme j'allais souvent prendre l'apéritif chez eux. Je leur ai dit, là, il faut me payer un coup, parce que vous savez, j'ai qu'un mot à dire, je suis votre cousine. Au départ, ils ont beaucoup rigolé. Et puis, très vite, ils m'ont dit, c'est pas possible. Vous n'y songez pas, ça durera pas 8 jours. Quelqu'un comme vous avec quelqu'un comme lui, c'est impossible, ça marchera jamais. Vaut mieux arrêter tout de suite, parce que de toute façon, ça ne peut pas marcher.
Ça se fait pas. Un paysan avec une intello, ça se fait pas. Dans la coutume berrichonne, ça se fait pas. Ça, c'est impossible de toute façon, ça peut pas durer, c'est impossible.
De la part des deux cousins, c'est de la jalousie pure. De la part de sa sœur, c'est un peu différent. Il faut dire quand même que depuis 70 ans, il vit avec sa sœur. Je lui prenais son frère, quoi. Et probablement toute sa vie, en fin de compte. Et donc, pas le droit de mettre les pieds chez eux, pas le droit même de rentrer dans la cour. Faut que je reste dehors avec les chiens. Faut pas les pieds ici, ta poufiasse. C'est ça qu'elle dit. Elle m'adorait. Hein. 15 jours avant, on s'échangeait des recettes de cuisine, je lui donnais des conseils sur sa santé, etc. Et c'était invivable pour lui. C'est-à-dire que vivre avec quelqu'un qui vous fait des scènes à longueur de journée ou qui vous parle plus, c'est quand même très difficile. À la salle des fêtes de la commune, il y a le maire offre l'apéritif chaque année début janvier, et là on est arrivés ensemble. Ça faisait 4 mois que ça durait, il était temps de le rendre public vis-à-vis de la commune, c'est-à-dire de l'ensemble des habitants de la commune. Alors déjà, on est arrivés en retard, ce qui fait que la salle était pleine et comble, et que quand on a ouvert la porte, donc toute la salle nous a vus. Comme un de ses cousins est conseiller municipal, il était sur l'estrade et il est devenu tout blême et il a failli avaler sa cravate, ça je m'en souviens. Il y a 2 ou 3 personnes qui sont venues au contraire nous voir et nous embrasser avec beaucoup d'ostentation et dire tout haut que on était heureux de nous voir et quelle bonne idée de venir tous les deux. Donc ça s'est très mal passé avec ses cousins et sa sœur. Ça leur est insupportable de nous voir ensemble. S'ils nous croisent ensemble à une foire, à une fête, etc., ils tournent les talons ou ils tournent le dos. Et plus ça a duré, plus leurs réactions ont été agressives, rejetantes, violentes. Et ils ont tenté tout ce qu'ils pouvaient tenter pour nous séparer. Dire à l'un qu'on le recevra toujours, mais pas l'autre, y compris calomnier l'un auprès de l'autre, que je le prenais parce que j'avais besoin de lui, pour le faire travailler gratuitement, dans le jardin, dans le potager, dans tout ça, à tailler les arbres, et que je le jetterais après, ou des choses comme ça, enfin, des choses très basses, très médiocres, très mesquines. Il y a même eu des propos comme ça, elle se paye le jardinier.
Ah ben moi ça me fait mal. Comme je dis, ça aurait été n'importe qui d'eux, j'aurais été très content et j'aurais tout fait pour que ça dure. Il n'y a pas de raison. On peut tomber amoureux à tout âge, comme tout le monde me dit, sauf eux, quoi.
C'est comme s'il avait trahi une loi tacite qui était que ça resterait toujours comme ça, qu'aucun des quatre ne devait se marier, ne devait trouver quelqu'un. C'est ça qui est intolérable pour eux. C'est-à-dire que peut-être que tout d'un coup, leurs yeux s'ouvrent, qu'ils se disent qu'ils ont raté leur vie, qu'ils sont restés seuls toute leur vie. Il suffit qu'un des quatre, finalement, se détache de ce destin de ce gâchis pour que peut-être eux-mêmes se disent « Qu'est-ce qu'on a fait ?» Ils comptaient éviter de se poser cette question jusqu'à leur mort. Et puis finalement, on leur pose.
Moi, je voudrais que ça dure. Voilà. Que ce soit toujours ensemble. Moi, je voudrais finir ma vie avec elle. Voilà.
C'est bizarre, hein, à cet âge-là, de se dire que on a eu une espèce de chance inespérée à laquelle on ne croyait plus du tout. Je crois qu'il faut qu'on fasse très très attention à ne pas la gâcher. On n'a pas du tout envie de la gâcher. Donc on a résisté à beaucoup de choses, parce qu'on a envie tous les deux que ça dure. On ne sait pas comment, mais on sait juste ça très fortement.
Couscous. Tiens, regarde, je t'ai foutu une croquette. Ouais, demain j'ai Hugo, hein, 14h.
Ouais, je sais.
Ouais. Et toi, les répètes, JB, c'est. C'est.
Jeudi. Mercredi.
On vit avec JB depuis 8 ans, tous les deux ici, et mais aussi avec nos deux chats, avec Couscous et Grabule. JB, c'est mon, comme je dis, mon deuxième garçon. Enfin, avant, j'ai eu plein d'histoires avec les filles. C'est jamais été quelque chose qui a été douloureux ou quoi que ce soit. Par contre, ma famille n'était pas au courant. Je crois un an plus tard, je suis avec Jean-Baptiste, où je leur ai dit que j'étais avec un garçon, etc., où j'ai dit les choses. Moi, j'ai une famille très méditerranéenne où donc ma mère, évidemment, quand je le dis, a pleuré en me disant... Quand ça arrive aux autres, on se dit c'est pas grave, c'est pas plus grave que ça, mais quand ça arrive à soi, tout à coup, on pense évidemment aux petits-enfants et dit mais tu peux pas m'empêcher de penser à ça. Voilà. Donc elle m'a dit écoute, je raccroche, je vais souffler et je te rappellerai plus tard. Et là, elle a eu une de ses amies qui, elle, a éclaté en sanglots en lui disant eh ben, tu vois, au moins, David, il a eu le courage de te le dire. Moi, mon fils ne l'a pas fait. Il faut extrêmement de courage. Et là, elle m'a rappelé, et comme si elle avait tout à coup une fierté que son fils lui a dit.
Moi, je viens d'une famille très bourgeoise et très catholique franco-française, qui vote souvent au centre droit. On va à la messe le dimanche et... On fait des trucs pour les pauvres, on aime bien les gens, tout ça. On chante à la messe, on frappe dans les mains, et voilà. Tout est très lisse, et puis surtout, tout doit être très lisse. Chez nous, frères et sœurs, on n'est que 4, mais ma maman, ils sont 8, on est beaucoup. Et pour moi, c'était acté que tout le monde était au courant que j'étais homosexuel. La seule fois où j'aurais pu avoir à le dire, bah, c'est ma petite sœur qui l'a dit à ma place. On était au café avec ma petite sœur, ma mère et moi. Je pars aux toilettes, je reviens... Et j'ai su, 20 minutes après, quand je me suis retrouvé dans le métro avec ma petite sœur, j'ai su que ma mère avait dit « Mais il est homosexuel ou pas ?» Et ma sœur a dit « Bah enfin !» Apparemment, elle lui a fait une scène quand même. Elle lui a dit « Mais enfin, maman, tu es complètement idiote !» Ça fait 20 ans que j'aurais dû t'en apercevoir. Apparemment, c'était très drôle à voir. Donc, voilà. David était souvent là. Il est venu à Boulogne à un Noël. Il est venu aux fiançailles de ma sœur. Il était là, quoi. Et comme moi, j'étais là dans sa famille. Il n'y avait vraiment aucun loup, quoi. C'était tranquille. Tout allait très bien jusqu'à le début du mariage pour tous, le début de ces grands débats à la télé, à la radio, partout. C'était les premières manifs contre le mariage homosexuel en décembre 2012. Et là, ça a été tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était pas si gagné que ça, puisque c'est là où tout d'un coup, tout bascule. Ma mère m'appelle, nous appelle, elle tombe sur l'un ou sur l'autre, bref, elle appelle à la maison, puisque là, c'est acté, on vit ensemble depuis déjà au moins 10 ans, 11 ans. Donc elle appelle à la maison, quoi, c'est moi qui réponds. Oui, on est à Paris ce week-end, si vous voulez boire un café avec nous en fin de journée, on serait content de vous voir. Ah bon, vous êtes à Paris ce week-end? Pourquoi? Parce que d'habitude, ils viennent pas le dimanche après-midi à Paris. Parce qu'on va manifester contre le mariage pour tous. Vraiment, cette loi, il faut pas qu'elle passe, c'est pas bien ce qu'ils veulent faire aux enfants. Et là, ça part dans tous les sens, des trucs qui n'ont rien à voir avec la loi, de tout est mélangé, toujours avec le ton très joyeux, ma mère. Parce qu'elle était même pas dans ce truc. Elle me disait pas, oui, mais le pape a dit qu'il fallait pas se marier, mais que le mariage, c'est la nature, un homme et une femme. C'était ça. Et donc, l'idée du mot mariage associé à deux hommes ou deux femmes, c'était pas possible. 2 heures au téléphone, je lui dis, mais tu te rends compte de ce que vous allez faire? Là, tu vas nous marcher dessus. Avec tous tes amis, vous allez piétiner toute notre histoire. Tout ce qu'on a fait avec David ces 10, 12 dernières années, voilà. Et je me souviens de l'avoir dit 20 fois, ça au moins. Ah non, mais il faut pas le voir comme ça, il faut voir plus loin l'intérêt des enfants et tout. Elle n'entendait pas du tout. J'étais atterré, je me suis dit, c'est bizarre, on en est encore là quand même. Je pensais pas que ça viendrait de mes parents. Et ouais, au début j'étais atterré, puis après j'étais juste très en colère. Dans la conversation, elle disait, mais si vous êtes dispo, vous pouvez venir aussi, c'est important, tout le monde doit se battre. Mais se battre pour quoi? Je sais pas, ils ont eu comme un virus qui les a pris. Genre, tiens, si on pensait comme des catholiques des années 50. Et là, je ne leur ai pas parlé pendant 8 mois, après ce coup de fil.
Et à ce moment-là, j'ai un coup de fil de mon papa. Et il me dit, donc avec son accent du Sud, il me fait « Voilà David, je pensais là me présenter aux élections municipales. Voilà, si vous avez envie de vous marier, j'y vais, toi, eh bien, moi je le ferai avec plaisir. » Et là, je dis à JB, « Voilà, mon père veut nous marier. » Et là, je vois JB fondre en larmes. Et je dis « Bon, papa, gagne les élections et c'est toi qui nous maries. »
Il était fier.
Il était très fier, ouais.
Mais ce qui était, je pense, en plus symboliquement, même si c'est la notion de l'État symboliquement qui unit deux garçons, c'était aussi un père qui donnait son consentement à ça, et devant tout le monde. Il est donc arrivé 3e sur la liste, et quand il a été élu, je lui ai fait un message de félicitations, il disait, bon, bah, ok, on organise, ça y est, on organise le mariage.
Grosse famille, donc on s'en va, on se téléphone pas tous, parce que sinon ça dure 4 heures, j'ai envoyé un mail commun à tout le monde. Voilà, on se marie le 31 décembre, on serait super content que vous veniez tous. Si vous venez pas, on le vivra pas mal. Mais c'est la seule fois où je vais vous dire, venez, on serait très heureux que vous soyez là. Je ne vous rappellerai pas en vous disant, s'il vous plaît, je me mettrai pas à genoux pour que vous veniez. Et ma mère a envoyé, on ne peut pas dire qu'on ne s'en doutait pas, mais il va nous falloir du temps pour y réfléchir. Voilà la réponse. Bon, bah, ils ont réfléchi, ils sont venus. Et à ce moment-là, tout a pris un nouveau sens. Tous mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes appelaient en disant « C'est trop bien, on va tous venir !» Et nous, on voyait la liste d'invités qui augmentait, parce que moi, ma famille, quand je les invite, c'est 90 personnes qui viennent.
On s'est mariés donc le 31 décembre 2014, donc à Burros, dans un petit village dans le Béarn. Et ce jour-là, Jean-Baptiste et moi, dans l'organisation, on s'est jamais dit que ce sera le plus beau jour de notre vie. Vraiment, on s'est dit, avec toutes les histoires qu'il y avait, on s'est dit, bon, on verra comment ça se passera, mais on se mariera. Et ce qui a été assez magnifique, déjà, on avait disposé les gens en arc de cercle autour de nous, et au moment où on a été mariés, où on s'est embrassés, on a vu comme une espèce de tsunami d'amour qui nous recouvrait. Et les derniers remparts, c'est pour ça que je parle de tsunami, toutes les petites réticences des familles ont été complètement englouties à ce moment-là.
fous les gens qui nous regardaient, mais c'était, en fait c'était fait, c'était gagné. Tous nos 14 ans de vie, ils étaient là. C'était gagné.
It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why, think of everything you've got, for you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? When I do, he turns away again. It's always been the same, same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go.
C'était Les Pieds sur Terre et Quelques Mésalliances, un reportage d'Alice Milo réalisé par Perré Le Gras, avec au mixage Eric Boisset. Merci à Dédé, à Nathalie, à David, à Jean-Baptiste, à Virginie, à Tatiana, à Anaïs et à Charlotte, ainsi qu'à Anne-Laure Chanel. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production des Pieds sur Terre, et c'est Camille Richir, notre stagiaire. I have to go.